Bonsoir, merci d'être venus nombreux ce soir. Bienvenue au Centre Pompidou. Cette séance s'inscrit dans un cycle qui a démarré en octobre, qui se poursuivra jusqu'au 1er avril, qui est consacré à la psychiatrie, la psychanalyse et le malaise social. Donc ce soir, le thème, c'est l'hôpital de Saint-Alban et la naissance de la psychothérapie institutionnelle. Nous avons des invités très prestigieux pour parler de ce thème. La soirée va se dérouler en deux temps. D'abord, le débat, et ensuite la projection d'un film, du film de Sonia Cantalapiedra, qui est présente ce soir. Et qui va durer donc une heure. Pendant le changement de plateau, vous pourrez consulter les livres qui se trouvent là, qui sont édités par les éditions Dune, et l'éditrice Sophie Legrain et sera présente aussi ce soir. Et voilà, je voulais remercier très chaleureusement et très vivement Mireille Gauzy, qui est présente aussi ce soir, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup contribué à la conception de cette soirée. Voilà, je l'en remercie. Et je vais laisser la parole à Éric Favreau, qui est journaliste à Libération et qui va présenter les invités. Bonne soirée.
Eh bien, merci beaucoup. Donc, je suis Éric Favreau et j'ai trois invités. Quoi, invités, ils sont invités surtout pour vous, mais c'est surtout autour d'une histoire très exceptionnelle, parce que quand même, pour être franc, la psychiatrie, c'est quand même pas le lieu où il y a les plus belles histoires, où il y a les plus beaux personnages. Ça existe. Mais il s'est passé quand même quelque chose d'absolument rarissime, exceptionnel, en pleine guerre, dans ce village qui n'a quand même pas beaucoup de grandes qualités esthétiques, de Saint-Alban, perdu dans la Lozère, où il y avait un personnage tout à fait exceptionnel, une situation tout à fait exceptionnelle, et il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Donc, cette chose exceptionnelle a été d'autant plus remarquable qu'elle a fait des enfants, que ça a marché, voilà, développant ce qu'on allait appeler plus tard la psychothérapie institutionnelle, même si aujourd'hui, on verra avec nos trois invités, on n'est pas tout à fait sûr que nous vivons une époque formidable autour de cette notion-là. Donc l'idée est un peu de revenir un peu sur cette expérience tout à fait rarissime qui s'est passée donc dans cet hôpital qui était comme un château, dans ce drôle de lieu où il y avait deux régions qui se rencontraient et où il y avait surtout un personnage qui est arrivé de l'autre côté des Pyrénées, venant d'abord d'un camp de réfugiés, mais on va vous raconter, qui s'appelait François Toscaillette, qui avait quand même énormément de qualités. C'est ça qui est aussi très étonnant dans cette histoire, combien ça tient à des personnes. Parce que donc il y avait ce François Toscaillette, dont on va vous parler, mais il n'y avait pas que lui, il y avait aussi Lucien Bonafé, et c'est d'ailleurs peut-être quelque chose que l'on abordera, parce que c'est aussi une histoire d'amitié. C'était deux personnages que vraiment rien n'assemblait. L'un était stalinien, pour dire les choses assez vite, et l'autre était anarchiste. Et ce fut une très belle histoire d'amitié, même si je caricature un petit peu. Et puis après, il y a eu aussi une époque absolument magnifique de résistance, d'actes très courageux qui se sont faits. Puis après, ça s'est dissipé. Donc l'idée est un peu de revenir sur cette histoire, de voir comment elle s'est développée et pour arriver jusqu'à la situation actuelle. Donc pour cela, trois personnes, trois invités. Il y a Lise Guignard qui est psychologue au départ, qui l'est toujours à l'arrivée, voilà, qui a longtemps travaillé à la clinique de la Borde, qui est d'une certaine façon un enfant ou une enfant de Saint-Alban. Je ne sais pas si on peut dire ça.
La Borde,
un enfant ou une enfant de... Voilà, et qui, après, a beaucoup travaillé et réfléchi autour de cette personne, puisque c'est quand même très marqué par une personne, François Toscaillès, ce psychiatre. À côté, Pierre Delion, qui est un magnifique pédopsychiatre, même s'il est maintenant professeur honoraire, qui s'est occupé beaucoup d'enfants autistes à Lille, et puis qui a connu très bien non seulement Jean Houry et aussi Toscaïès, puisque tu nous raconteras, tu as fait ton stage, un stage d'internat, ou je ne sais plus si c'était de l'internat ou de clinica à l'époque, et puis qui a été un des éléments aussi très importants de la diffusion de ce qu'on appellera plus tard la psychothérapie institutionnelle. Et à mes côtés, Benjamin Royer, qui est, comme vous le voyez, un petit peu plus jeune que nous trois, et qui travaille, qui est en pleine action, et qui nous dira un peu si aujourd'hui la psychothérapie institutionnelle est une pratique qui a encore du sens, si ça marche, si se passe quelque chose. Voilà. L'idée est de faire, pendant une petite heure, voilà, de vous laisser parler, débattre entre vous, parce que quand même, en plus, tous les trois se connaissent parfaitement, donc ils savent ce qu'ils vont se raconter, donc vous pouvez vous contredire, et puis après de vous donner un peu la parole, parce que c'est vrai que c'est, comme je le disais au tout début, c'est quand même rare qu'il y ait une aussi belle histoire dans la psychiatrie. Et moi, pour suivre ces questions depuis une trentaine d'années dans mon journal que vous lisez tous les matins ou toutes les après-midi, c'est comme vous voulez, il y a peu d'aussi beaux personnages et aussi une telle émulation intellectuelle. Alors peut-être, Lise, vous pouvez nous raconter, mais pour un peu le point de départ, comment se fait-il d'abord que François Toscaïès, et qu'est-ce qu'il fait pour qu'il arrive là? Et d'abord, qu'est-ce qu'il trouve quand il arrive à Saint-Alban?
Ah oui, alors ça, je veux bien parler de ça. Qu'est-ce que trouve François Toscaïès?
C'est qui d'abord? Un petit peu de nous donner un peu...
Oh, ça, c'est pas de chance que ça tombe sur moi.
C'est pas le plus compliqué,
donc,
quand même.
Tout le monde le sait. Hein, donc, je n'ai pas besoin de donner beaucoup de détails. Non. Enfin, il arrive, il était psychiatre dans l'armée républicaine espagnole. Et il, au moment de la retirada, il traverse les Pyrénées et se trouve aux environs du camp de Sept-Fonds. Et là, dans ces camps, les Espagnols étaient recensés. Pour être utilisés dans leurs compétences en France. Maçons, électriciens, tout ça, ça marchait aussi. Et psychiatres, alors là, je ne vais pas vous le faire, c'est trop long, mais par tout un tas de communications entre des psychiatres différents, ils se retrouvent à Saint-Alban, puisque on est à ce moment-là... les hommes sont prisonniers et donc en Allemagne, et donc il manque beaucoup d'hommes en France, et en particulier à Saint-Alban, François Toscaïès est très attendu par des psychiatres progressistes, par Balvé aussi, qui connaît Bonafé, enfin bon, tu sais ça mieux que moi, enfin en tout cas il arrive là. Et il trouve un hôpital qui n'est pas, qui a un psychiatre progressiste à ce moment-là. Balvé est quelqu'un qui n'est pas aussi radical que Toscaïès, mais qui est un psychiatre progressiste, et sa femme, parce qu'elle est aussi psychiatre. Mais enfin, maintenant, ça fait pas longtemps qu'on s'occupe des épouses en tant que professionnelles. Mais voilà, on doit le dire, elle était psychiatre aussi, effectivement, psychiatre. Et Madame Balvé était, spécialiste de pas mal de choses. Et donc, il arrive là, dans un hôpital qui est très bien décrit dans Esprit, la revue Esprit de 1952, Misère de la psychiatrie. Il y a un infirmier qui raconte, Marius Bonnet, de Saint-Alban, qui raconte bien, et ça vraiment, je trouve que c'est un des plus beaux textes de psychothérapie institutionnelle qu'on ne lit pas assez souvent, qui raconte bien comment il a connu l'hôpital avant Toscaïès, puisque son père et sa mère y travaillaient. Et donc, c'est tout petit, Saint-Alban. Enfant, il allait à Saint-Alban, il connaissait Saint-Alban, et pour lui, une chose était certaine, c'est qu'il ne pourrait pas, lui, travailler comme ses parents. Et après son séjour dans les camps où il avait été interné en tant que résistant, quand il revient, il entend dire que l'hôpital n'est plus pareil qu'avant. Et que là, on peut aller dignement travailler à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Et il va faire vraiment un article en 1952, hein, racontant tout son trajet, qui est un trajet d'infirmier, hein, parce qu'il rentre comme infirmier en 46, ou enfin le temps qu'il se remette des camps, le temps qu'il... Voilà. Et donc il y a une transformation de la place des malades, de la place des malades, des modalités d'hospitalisation. Et ce n'est pas, comme dit Tosquies dans ce petit livre-là que j'ai sorti exprès pour vous dire de le lire absolument, « Hygiène mentale des éducateurs et leur efficacité ». Éducateur, ça veut juste dire, ça ne veut pas dire éducateur, ça veut dire un milieu éducatif. Et il dit là-dedans qu'il faut lutter contre le gardiennage des abusés. Et vraiment, c'est son travail. Enfin, c'est ce que Tosquies, de mon point de vue, a fait de plus marquant, cette lutte au quotidien, sans sous-estimer la dureté du travail. C'est très dur de travailler dans un hôpital psychiatrique en 47, mais c'est aussi dur... en 47, je ne sais pas pourquoi je dis 47. En 42, quand il arrive, que encore maintenant, c'est dur. C'est un métier très, très difficile. Voilà. Donc, il a, comme il disait, soigné l'hôpital. Il faut d'abord soigner l'hôpital.
Oui, mais avant de soigner l'hôpital, il fallait aussi, tout simplement peut-être, que les malades puissent manger à leur faim. C'est quand même une des expériences, quoi, un des éléments les plus forts. Ou bien ça a été très exagéré ?
Non, c'est vrai. Enfin, il y a des travaux qui sont extrêmement sérieux de Isabelle von Bülsing-Loven, qui a vraiment travaillé sur les lieux d'enfermement d'enfants et de malades mentaux et de vieillards pendant l'occupation. Et Saint-Alban a un score, en effet, très, très bas de patients morts de faim. Il y a beaucoup d'autres hôpitaux où ça s'est passé comme ça, mais l'immense majorité l'immense majorité des services a laissé mourir un nombre, je ne sais plus le nombre, 45 000 malades mentaux pendant. Tout le monde avait faim pendant l'occupation. Et on a des chiffres. Par exemple, à Ville-Évrard ou à Maison-Blanche, il y a un service où il n'y a pas eu beaucoup de morts de faim. Le service d'à côté, il y en a eu énormément. Il y avait vraiment une question de personne, une question d'organisation des soins, une question de tenue. Et à Saint-Alban, bien entendu, mais ce n'est pas le seul endroit. Par exemple, si on prend les cliniques et les hôpitaux tenus par des bonnes sœurs, ils ont des bons scores aussi. Mais bon, Saint-Alban a cette particularité-là, oui, de ne pas avoir lutté contre la faim.
Mais c'était plus qu'une particularité, parce que, si je ne me trompe pas, Saint-Alban aussi, au début de la guerre, a reçu énormément de malades mentaux venant d'autres... Parce que tous les hôpitaux psychiatriques du nord de la France ont été vidés de leurs patients, et un grand nombre, en l'espace de quelques mois, Saint-Alban a dû voir sa population de patients multipliée par 2, voire multipliée par 3. Donc, il s'est passé quelque chose. Non, c'est Pierre de Lyon, quand même. C'est pas ça la première attitude, quand même, parce que c'est ce qui ressort un petit peu de... Avant de s'occuper de... C'était simplement que les gens puissent être en vie.
Oui, ça, je crois que la psychothérapie institutionnelle, c'est d'actualité parce que ça porte sur la vie quotidienne. Hein. La vie quotidienne, c'est quoi ? C'est manger, parler avec ses congénères et puis faire des activités culturelles quand on a le ventre plein. Hein, voilà. Donc je crois que Tosquies avait tout à fait bien intégré ces dimensions-là parce qu'il venait de la guerre lui-même, hein, République contre Franco. Et évidemment, ça l'avait vraiment formé à cette question de comment faire pour survivre. Pour survivre, il faut d'abord manger. Alors, tu as absolument raison. Ils ont envoyé Balvet et lui et un certain nombre des psychiatres avec lesquels ils travaillaient. Ils envoyaient les patients qui étaient valides sur le plan physique, aider les fermiers du coin qui, comme disait Lise, étaient partis prisonniers, stéo et compagnie. Et donc, ils ont travaillé dans les fermes de l'environnement. Et le soir, quand ils revenaient à l'hôpital, ils revenaient avec des sacs de patates. Et les gens, au lieu de mourir de faim, comme dans la plupart des hôpitaux, ils étaient nourris. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a une deuxième leçon à cette observation scientifique de base, c'est qu'en plus, à la fin de la guerre, quand Bonafé et Tosquelles ont fait les comptes sur qu'est-ce qui s'est passé de particulier, ben, non seulement ils n'étaient pas morts de faim, ce qui est quand même un avantage certain, mais enfin, en plus, ils étaient vraiment beaucoup mieux sur le plan psychique, parce qu'ils étaient insérés dans un milieu dans lequel on les faisait travailler, on les utilisait de façon socialement acceptable, et évidemment, ils avaient un narcissisme retrouvé. Hein. Et ça, je crois que c'est une question qui est très importante, parce que ça introduit le fait que non seulement Tosquelles a inventé la psychothérapie pensionnelle à Saint-Alban, mais Bonafé a inventé la psychiatrie de secteur. Les deux sont allés ensemble. Et ça, je crois que c'est vraiment un enseignement formidable. Cette ambiance particulière à laquelle tu faisais allusion, je crois que c'est ça, ce creuset. Les gens se sont dit, comment on peut faire pour survivre? Et en survivant, ils se sont rendus compte qu'en plus, ils avaient des grands avantages sur le plan psychique. Hein, donc ça, c'est une leçon de psychiatrie formidable et qui n'est pas réductible au cerveau. Hein, j'en profite pour faire un petit moment de publicité. En 1942, il y avait le congrès qui avait lieu à Montpellier de psychiatrie et de neurologie de langue française, où étaient réunis tous les psychiatres qui venaient raconter des histoires formidables sur ce qui se passait dans leur service. 45 000 malades mentaux sur 70 sont morts de faim pendant la Deuxième Guerre. Mais il y avait des gus qui avaient le culot de faire des présentations de malades en disant « Il y a des patients qui meurent parce qu'ils ont une hypoalbuminémie. » Bande d'enfoirés. Au lieu de dire qu'ils étaient en train de crever de faim, ils faisaient des publications scientifiques sur l'hypoalbuminémie. Non mais je rigole ou quoi? Donc là, on voit bien que la science peut être utilisée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire en ce moment. La science peut être utilisée à des fins qui sont des fins uniquement idéologiques et pas du tout des fins des fins qui sont pratiques. Et quand Tosquelles a voulu aller au Congrès, qu'on lui a dit non, toi, tu es un Catalan réfugié, tu ne rentres pas au Congrès. Hein, le racisme ne date pas d'aujourd'hui. Hein, bon. Eh bien, Domaison et compagnie ont quand même fait passer le message qu'il fallait arrêter de déconner avec ces histoires de publications scientifiques et qu'il fallait parler de la vie même des patients et de leur survie. Et donc, Domaison a été le porte-parole de Tosquelles et des autres pour dire, écoutez, les mecs, arrêtez de baratiner tous ces trucs. Il faut qu'on s'occupe de penser la psychiatrie qui vient pour que les gens survivent. Et c'est là qu'a commencé à se mettre en place toute cette espèce d'émulation intellectuelle extraordinaire. Tosquelles, Bonafé, Domaison, pour citer les plus connus. Mais enfin, avec beaucoup de petits copains et de petits frères autour d'eux, qui ont évidemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, utilisé ce creuset pour développer quelque chose qui va devenir la psychiatrie de secteur, fondée par Bonafé et ses copains. Mais la psychiatrie de secteur, c'est un système d'organisation de la psychiatrie. Pour que ça marche, il fallait que Tosquelles soit là avec la pensée de la psychothérapie institutionnelle.
Et alors, voilà. C'était quoi? Parce que la pensée de la psychothérapie institutionnelle, parce que quand même, Tosquelles, certes, il est jeune, mais quand il arrive à Saint-Alban, il a quand même un passé assez impressionnant. Parce
incroyable.
Que il est sur le front, loin.
C'est
il est
incroyable.
Sur le front.
Ouais.
Il se dit, les combattants ont l'air de, eux aussi, d'avoir plein de souffrances, y compris de souffrances psychiques. Et il travaille, travailler avec des prostituées en leur disant, mais c'est avec elles.
Entre autres. Il n'était pas attaché qu'aux prostituées.
Il aurait pu.
Il y avait une femme, Hélène, qui était formidable, n'était pas du tout prostituée.
Mais ce que je veux dire, c'est
très important ce que tu dis sur le fait qu'il arrive avec quelque chose à voir. Hein. Je crois qu'il est né en 1912. Hein. Donc, vous voyez, ça fait quand il arrive à 1er janvier 1940 à Saint-Alban, après 9 mois passés à Sept-Fonds, comme tu le rappelais, et il est quand même très jeune. Hein. Il a 30 et quelques. Alors, il a 1912, il passe son bac à 15 ans. Il fait sa médecine express et il commence sa psychanalyse en 1934 avec un émigré de Hongrie qui s'appelle Sandor Eminder, qui est un analysé de Ferenczi quand même, excusez du peu, et donc qui va fuir la Hongrie dès 1933 et demi parce que le moustachu qui lève toujours le bras droit commence à envahir tous ces coins-là sur le plan intellectuel et les Juifs se disent il fait pas bon rester dans le coin. Donc il s'est barré, il est arrivé à Barcelone et Tosquelles a eu la chance de le rencontrer, de faire une analyse avec lui. Et il va donc, en même temps qu'il a fini sa psychiatrie, qu'il commence déjà à être psychiatre à l'Institut Pere Mata à Reus, au sud de Barcelone. Pour ceux qui connaissent la Costa Brava, c'est pas très loin de Tarragone, vous voyez. Et donc, il fait sa psychiatrie dans cet endroit-là. Et puis, survient la guerre d'Espagne. Et donc, il est psychiatre, il fait de la psychiatrie, il fait sa psychanalyse à Barcelone, et puis il survient à la guerre d'Espagne. D'un seul coup, tout s'arrête, et donc, il est pris dans cette espèce de mouvement, parce qu'il était marxiste, catalaniste, etc., enfin, anarcho-fédéraliste et marxiste, hein, il était quand même un peu particulier. Et donc, il s'engage dans ce truc-là, et il devient responsable du service de psychiatrie de l'armée républicaine espagnole. Hein. Et donc, on voit bien que, comme Bion nous a beaucoup aidé à comprendre les question des groupes par son expérience de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, Tosquelles, par son expérience de la guerre républicaine contre franquiste, nous a aidé à comprendre comment la psychiatrie pouvait ne pas rester à ce qu'il avait appris avec Sandor et Minder, c'est-à-dire la psychanalyse cure-type mode viennois, Budapest et compagnie, mais étendre cette notion de la psychanalyse à des pathologies pour lesquelles Freud ne l'avait pas pensé au départ, la névrose occidentale poids moyen. Il avait pensé que ça pouvait s'étendre à ces pathologies, mais sur le mode de la cure type. Et il a fallu quand même que Tosquelles fasse cette espèce d'exercice épistémologique fondamental de dire, si on veut utiliser la psychanalyse comme un savoir qui nous aide à changer les conditions de vie des malades mentaux, il faut étendre la psychanalyse à un autre monde qui est celui de la psychose. Et donc, ce qui se passe avec la névrose, c'est vachement instructif, c'est très important, mais en aucun cas, ça peut être appliqué tel quel à la psychose. Et à ce moment-là, on voit bien qu'il va développer ce que Oury va reprendre après, hein, la notion du transfert multiréférentiel. Et il raconte cette histoire. Moi, il m'a raconté ça quand on prenait l'apéro à Reus au cours du congrès de la Semaine Sainte chaque année. Moi, j'y étais pendant 25 ans. Il racontait ces histoires-là. Il me raconte... José de León, un patient schizophrène, il arrive à l'entrée de l'hôpital. Il avait un putain d'accent comme ça. Enfin, je vous l'ai fait entendable. Hein. Mais enfin, il pouvait ne pas être compris du tout. Mais enfin, ça dépendait des gens qui y parlaient. Hein. Bon. Alors, une schizophrène, il arrive à l'entrée de l'hôpital. Il voit le concierge. Et alors, le concierge, il lui dit vous voulez quelque chose? Vous voulez me faire hospitaliser? Alors... Eh bien, pourquoi? Alors, il commence à lui raconter le truc, parce que la tête du concierge lui revient très bien. Et donc, il lui raconte tout un tas de choses. Et puis, le concierge, au bout d'un certain temps, lui dit, bah, écoutez, moi, je suis quand même pas psychiatre. Hein, donc, je vais vous amener à l'infirmière qui va s'occuper de votre hospitalisation. Donc, il amène à l'infirmière qui s'occupe de l'hospitalisation. Le type trouve qu'il a une tête vraiment sympa, l'infirmière. Donc, il lui raconte des tas de choses. Et puis, l'infirmière, au bout d'un certain temps, dit, il faut quand même que le psychiatre vous voie, hein. Alors, elle l'amène chez le psychiatre. Et au moment où il va rentrer dans le bureau, le patient dit « Oh putain, la gueule qu'il a, ce psychiatre, je peux pas le supporter. Je vais rien lui dire. » Bon. Donc, il rentre dans le bureau, il s'assoit, il reste trois quarts d'heure sans rien dire. Alors, Tosquelles dit la chose suivante. « Vous comprenez, si le psychiatre, il croit que, comme tous les psychiatres, il est le centre du monde, mais il a un délire mégalomaniaque, enfin, bon, vous savez, comme ça, il parle comme ça, Tosquelles. Eh bien, il va dire ce malade catatonique, il faut l'hospitaliser, lui faire des électrochocs. Enfin, pas encore, puisque c'était un peu plus tard. Mais s'il si ne prend pas la précaution de s'informer auprès de l'infirmière qui lui a amené le patient, puis que cette infirmière lui dise qu'il y a le concierge qui lui a amené le patient, et qu'ensemble, ils se fassent une réunion comme ça, artisanale, pour dire « Et alors, qu'est-ce que tu en penses de ce patient ?» Et que chacun raconte vraiment ce qu'il pense de ce patient, là, on crée la constellation transférentielle, et toutes les parts du transfert que ce patient porte en lui et sont présentes dans la réunion de la constellation.
Alors, juste, j'en profite comme tu es là. Est-ce que tu pourrais pas dire, avec un autre mot, qu'est-ce que ça veut dire, la constellation transférentielle?
La constellation.
C'est-à-dire, c'est d'avoir des liens avec...
C'est ça. C'est quand je suis perdu sur la mer, sans jeu de mots, la mer ME accent grave RE, quand je suis perdu, eh bien, je regarde dans le ciel et éventuellement, j'ai un instrument qui porte un nom très freudien qui s'appelle le sextant. Ils ont un instrument qui s'appelle le sextant, vous voyez, hein, ça c'est quand même pas mal comme truc. Et alors, il regarde les étoiles.
En même temps, Pierre est un très bon navigateur.
Oui. Il regarde les étoiles et il voit une constellation, la Grande Ourse. Oui. Et on multiplie par 5 le côté petit de la Grande Ourse et on trouve l'étoile du pôle Nord. Hein. Et donc, à ce moment-là, on peut se diriger. Donc, qu'est-ce que c'est la constellation? C'est un truc sur lequel... on peut s'appuyer pour se diriger dans son existence. Hein, voilà. Donc, moi, je trouve la constellation transférentielle inventée par Tosquelles, c'est formidable. Parce que c'est une manière de dire le transfert dans la psychose, contrairement à ce que disent les psychanalystes pur sucre, ça existe, mais il faut modifier le dispositif pour pouvoir en tenir compte. Et le modifier, le dispositif, c'est tenir compte de l'institution, le concierge, l'infirmière et le psychiatre. Mmh. Tout seul, le psychiatre, il peut que dalle. Mmh. Surtout pas s'occuper des psychotiques. Hein, et donc ça, c'est vraiment ça la révolution que Toscaès amène à Saint-Alban. Mmh. Et plutôt que de dire, on va faire des bouquins, on va écrire, etc., c'est vachement important que d'une publie les bouquins. Hein. Bon. Mais il dit, on va transformer les conditions de vie quotidienne des patients dans cet hôpital-là. Donc on casse un pavillon avec les moellons, on refait un autre pavillon, mmh. et on fait un pavillon pour que ça serve aux patients, et on ne fait pas un pavillon pour que ça serve à l'administration. Mmh. Et donc, d'un seul coup, il y a une vraie révolution qui se passe là, dans l'hôpital de Saint-Alban, mmh. grâce à Toscaïès et à tous ceux qui y rencontrent, qui attendent que ça, mmh. pour que ça change dans les conditions d'hospitalisation des patients et, tu y as insisté, dans les conditions de travail des infirmiers, mmh. qui sont les alliés, évidemment, naturels des psychiatres. Mmh. Et ensemble, trouvant une sorte de désir très, très opérotropique hein, pour pouvoir se mettre à travailler, pour comprendre, pour acquérir une culture psychiatrique digne de ce nom, tous ces mecs-là se mettent à travailler formidablement et ils accueillent tout un tas de gens, comme tu le disais, des autres hôpitaux, mais aussi des psychiatres qui viennent d'ailleurs, des gens qui viennent se cacher. Vous connaissez ce roman policier là qu'a écrit, je ne sais plus, qui
Déninx.
Déninx, vous avez lu, ça, c'est une histoire formidable. Mmh. On voit bien des poètes viennent se cacher là, des scientifiques
cachés
dans la maison des fous. Hein. Des scientifiques viennent là, etc. Les gens se font passer pour malades pour se planquer par rapport à la Gestapo. Bon, tous ces trucs-là font qu'il y a une sorte de culture qui se développe là. Et alors, évidemment, ça va avoir des effets qui sont considérables sur toute la psychiatrie française.
Alors, c'est pour ça, Lise, je voudrais vous poser une question qui continue là-dessus. C'est quelque chose qui est fascinant, c'est que donc, pendant ces années de guerre, il y a eu toute une série de résistants qui sont passés, et donc des gens importants. Il se passait beaucoup de choses, puisque c'était un lieu de grande résistance. Et alors, je ne sais plus qu'est-ce qu'il le disait, mais c'était peut-être Pierre ou c'était peut-être Toscaïès aussi. Il n'y a jamais eu de dénonciation. Alors qu'on aurait pu croire que c'était un lieu assez... Voilà, que les malades auraient pu...
Alors, j'en sais rien, moi, du tout. Mais par contre, j'ai entendu une émission de radio France Culture il y a... J'étais jeune, c'est pour dire. C'est vieux. Et c'est Profil perdu. Et dedans, on entend Madame Toscaïès qui parle avec Madame Balvé, parce qu'ils ont enregistré. Et il y en a une qui dit « Tu te rappelles le jour où il y a cette bonne femme qui est arrivée, là, ils étaient prêts à lui donner tout, à tout lui dire. Heureusement, hein, heureusement qu'on leur a dit hein, « oh, Ah, les mecs, quand même !» Du moment qu'elle était jolie et tout ça, hein, et ben voilà, on a failli être tous vendus. Ah, heureusement qu'on leur a dit. Hein, moi, je leur ai dit et tout ça. Et alors, il y avait bagarre entre les... Enfin, elles étaient d'accord, toutes les deux, qu'il y avait un danger terrible. Il y avait un danger terrible. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi il y a... Peut-être que Mme Balvé et Mme Toscaïès étaient particulièrement attentives. Je ne sais pas. Ou d'autres.
Ah, c'est quand même un mystère assez... Puisque même on voyait.
Ils étaient prudents.
Et oui, ils étaient prudents, mais oui, il y avait aussi, je crois, il n'y avait jamais d'armes. Hein. Ils faisaient très attention qu'il n'y avait. Quoi, en tout cas, dans ce que j'ai pu lire, qu'il n'y avait jamais d'armes dans l'hôpital. Mais alors, vous, alors juste pour reprendre un peu ce que disait Pierre, quand vous regardez, donc de façon un petit peu plus lointaine et non plus directe, certainement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, y compris après dans votre expérience de psychologue et de travail, Parce que, voilà, il y a les expressions, il faut pas simplement soigner le patient, mais il faut soigner les murs.
Non, moi, la phrase peut-être qui m'a le plus marquée, c'est « La folie n'est pas une affaire personnelle ». C'est je m'en suis toujours pas remise. Et il y a quelque chose, de très important. Moi, c'est ça qui m'a fait travailler en psychiatrie, aussi bien à la Borde qu'après. Bon, j'ai travaillé en prison et tout ça. C'est pareil. Ça s'agite quelquefois en maison d'arrêt, et il me demandait les surveillants, parce que c'est compliqué d'apprivoiser les surveillants. Quand quelqu'un s'agitait, je pouvais y aller. Mais toute seule. Alors, c'est pas possible hein, en prison. Mais fallait, je disais, bah, sinon, j'y vais pas. Et donc, j'y allais. Mais c'est parce que il faut aller, il faut tenir compte du fait que le type qui tape sur les barreaux, bah, au bout de 12 heures ou 15 heures, tout le monde en a marre. Hein. Les détenus, tout le monde est à cran. Et donc, il va falloir y aller en tenant compte de l'ensemble de la prison, mais toute seule avec le type. Et c'est vraiment... ce qui est important, c'est que si on pense que le détenu... Moi, je ne m'occupais que de criminels. Donc, si on pense que ce type est un criminel, on ne peut pas y aller. Si on pense... Bon, on est tous dans la prison... J'appartiens au groupe de la prison. Lui, il appartient au groupe des prisonniers, des criminels, les surveillants. Voilà. Mais il y a plein d'autres groupes. Il y a plein d'autres groupes. Et ce type, je le connais. Je le connais, je le vois depuis longtemps. Je connais toutes ses histoires. Je connais toutes ses histoires extérieures. On mobilise en psychothérapie une analyse du passage d'un groupe à l'autre, des groupes. Enfin, on avait travaillé tous ces groupes. Moi, je pouvais dire, enfin, faut improviser dans ces cas-là, hein, parce que le type, il est à moitié fou, il hurle, et puis il emmerde tout le monde a envie de le tuer. Donc, il faut y aller, voilà, faut trouver quelqu'un à évoquer, Il faut le replacer dans le monde, dans le monde, sachant qu'on est dans un monde tout à fait épouvantable. Et c'est ça, la folie n'est pas une affaire personnelle. L'agitation, ce n'est pas une affaire personnelle. Il n'y a pas un type qui est agité. Pour reprendre ton affaire du concierge, il y a le prochain numéro de la revue En Pan sera sur la contention. Et il y a deux jeunes infirmières, toutes jeunes infirmières, mais vraiment de, je ne sais pas, 22, 23 ans, qui m'ont demandé de les aider à écrire leur expérience d'infirmière de contention, puisque c'est leur travail. Dans cet hôpital, le malade, il arrive par les urgences, il est reçu, donc il est orienté, il raconte ses histoires, il est orienté vers les urgences de psychiatrie, il raconte ses histoires, et là, il est orienté vers un service temporaire où il va encore raconter ses histoires. Dès le début, il a une ordonnance, mais trois fois, il va raconter ses histoires. Et donc, les gens arrivent dans un état d'agitation épouvantable. C'est un espace de 48 heures, mais évidemment, comme il n'y a pas de place en aval, il y a deux fois le nombre de malades qu'il faudrait par lit. Et, voilà. Et donc, tout le monde est agité, et donc, tout le monde est attaché. Et donc, ces deux petites jeunes filles, elles voulaient écrire ça. Et en fait, c'est en écrivant qu'elles se sont aperçues que ça rend fou de raconter trois fois de suite quelque chose qui vous précipite en psychiatrie. On n'y va pas si souvent que ça en urgence en psychiatrie. Même quand on a des troubles importants, et ben, de raconter quatre fois de suite la même chose, forcément qu'elles étaient en position d'accueillir quelque chose d'épouvantable. Et c'est ça, la folie n'est pas une affaire personnelle. Pour moi, Tosquès nous enjoint de penser ça tout le temps. Qu'on n'aille pas croire, nous on n'est pas comme ça tout le temps. On est comme ça, assis sur une chaise, on obéit à Éric Favreau, mais pas tout le temps. C'est une situation tout à fait exceptionnelle. Et on est, ben voilà, on a une certaine timide, enfin, bon, mais ça ne va pas durer. Et puis vous, c'est pareil, vous ne bougez pas, mais voilà. Il y a quelque chose qui est vraiment de situation. Et c'est aussi pour ça, du coup, que j'ai travaillé sur le travail.
On y reviendra juste. Deux choses après, pour remonter un peu à la chronologie avec toi, peut-être Pierre. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais t'entendre. Est-ce que quand même tout ça est très lié à des personnes? C'est-à-dire qu'on est quand même très frappé par le fait que tant Toscaïès que Bonafé, juste après Houry, et sûrement maintenant avec toi, mais il y avait des personnalités assez exceptionnelles, quoi. Est-ce que ça tient aussi à ça, quoi, à ce côté? Ou bien, non, c'est un jeu... Il y a quelque chose
Il y a une subtile dialectique entre des personnes qui s'y prêtent et un environnement qui permet que ça prenne ou pas. Pour aller dans le sens du côté obscur de la force, Hitler n'explique pas lui tout seul le nazisme et Staline pas lui tout seul le stalinisme. Je crois que c'est la même chose. Je crois que ces gens-là, tout valeureux qu'ils soient, tout géniaux qu'ils soient, s'ils avaient été tout seuls, ça n'aurait pas marché. Et on voit bien que c'est ce que dit Lise, c'est sans doute le fait qu'ils ont une capacité à pouvoir déclencher des phénomènes de groupe, mais pas à leur profit narcissique, personnel, ça c'est Hitler et Staline, mais à leur profit collectif. Et c'est cette notion que finalement Tosquelles a confiée à Uri, écoute, moi j'ai pas le temps de tout faire, réfléchis sur le collectif, et le mec a pris 40 ans de sa vie à ça.
Ah oui, parce que ça a été très clair.
Je ne sais pas si c'est très clair, c'est dans les caricatures que je fais, c'est ça. Je pense que c'était vraiment parce qu'il était constitué de collectif. Il a écrit un article très intéressant qui s'appelait « La sémiologie des groupes ». On voit bien dans lequel il met en évidence le fait qu'on est tous des bandes de jeunes à soi tout seul. C'est-à-dire, on est tous appartenant à plein de groupes. Et quand on fait le point à l'intérieur de nous sur le nombre de groupes auxquels on appartient, ça nous éclaire sur nos mécanismes d'identification, etc. Et on voit bien que tout seul, ça n'existe pas. C'est une catégorie complètement folle. Et penser, par exemple, que la schizophrénie, ça serait uniquement un dérèglement endocrinien ou neuronique, c'est complètement à côté de la plaque. Bien sûr que c'est important, mais c'est important dans une relation avec les autres. Et y compris, d'ailleurs, les grands neurologues nous disent que le cerveau n'est rien qu'une interface entre soi et les autres. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait logique, c'est extrêmement scientifique, et en même temps, c'est extrêmement anthropologique. Et c'est ça qui est cette psychothérapie institutionnelle qui est là de formidable, et c'est pour ça qu'elle est très liée avec la psychiatrie de secteur, c'est que c'est en même temps une histoire de cette personne qui est réputée folle, qui vient à mon contact parce qu'elle en a marre d'être hallucinée, je sais pas quoi, qu'est-ce que je vais faire pour elle, mais je ne peux pas penser pouvoir faire pour elle quelque chose tout seul avec elle. Et il va falloir mettre dans le coup sa famille, ses amis, s'il en a, s'il n'en a pas, etc. C'est soignant et pas son soignant. Et d'un seul coup, on se retrouve dans quelque chose de vertigineux qui est une réflexion non pas sur une relation intersubjective entre deux personnes dont l'un soigne l'autre, mais entre des multitudes de personnes qui chacune sont constituées de multitudes de personnes. Et d'un seul coup, on se retrouve presque, on pourrait dire, obligé épistémologiquement de réfléchir sur la question du collectif. Et ça, je crois que c'est vraiment une invention de la psychothérapie institutionnelle. Je crois que quand Tosquelles dit « le psychiatre tout seul ne peut pas s'occuper du schizophrène, il faut qu'il s'en occupe avec le concierge et l'infirmière », c'est une manière de dire « on ne peut pas prendre en charge ces gens tout seuls parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes tout seuls ». Et donc, on voit bien qu'il y a toute une histoire de rencontre entre les groupes dont il est question dans la psychothérapie institutionnelle. Et quand on parle de l'institution dans ce sens-là, c'est l'institution des personnes qui font vivre la famille, par exemple, qui est une des premières institutions par laquelle on passe, mais aussi le service dans lequel je travaille, le lycée dans lequel je travaille, le collège dans lequel je travaille, enfin, le journal dans lequel je travaille. Ce ne sont que des établissements en soi. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre Le Monde, Libération et Minute ? C'est probablement parce que les gens qui font institution dans ces établissements-là ont des histoires extrêmement différentes les unes des autres. Et je pense qu'en psychiatrie, c'est la même chose. Il y a des services de psychiatrie, mais on voit bien qu'en fonction des personnes qui vont habiter dans ces services de psychiatrie, les résultats sont extrêmement différents. Donc il faut pouvoir être sensible à ces histoires, parce que c'est ça qui nous permet d'accueillir la multiplicité des histoires pathologiques qui nous sont confiées. Et pour pouvoir tenir le coup, il faut absolument qu'on ne soit pas tout seul dans la barque, mais qu'on soit vraiment une bande qu'on peut appeler par principe institution. Voilà.
Juste pour avancer, puis pour arriver un peu à l'époque moderne, pour toi, ce qui a été décisif et ce qui a fait que ça a marché, pour employer les mots, c'est qu'il y a eu quand même une alliance extrêmement positive entre la psychiatrie de secteur, disons plus sociale, que portait d'une certaine façon Bonafé, et le côté plus, alors comment dirais-je, plus clinique, plus
psychopathologique. Voilà.
Et alors le troisième courant, c'est pour ça qui finalement a été assez peu présent en France, qui était anti-psychiatrie.
Mais l'antipsychiatrie, c'est une manière pour les Anglais, puisque c'est eux qui ont commencé, de dire l'asile, ça ne peut pas continuer, Moi, je ne peux pas continuer à voir des gens à qui on fait des électrochocs dans des salles entières sans tenir compte de chacun d'entre eux. Donc, quand je le reçois en consultation, je lui offre le thé. Et puis, quand je reçois ses parents, je leur offre le thé. Et puis, on discute ensemble, non pas deux, avec un bureau entre nous, mais autour d'une table. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'est déclenché d'un processus d'humanisation de l'asile qui était nécessaire pour eux. Et donc, parce qu'ils n'ont pas analysé suffisamment loin les causes de ce qu'ils observaient, ils en ont conclu que c'était l'asile qui rendait les gens fous. Et évidemment, c'est une erreur grossière, parce que ce n'est pas l'asile qui rend les gens fous. Il y avait des fous bien avant l'asile. Et on voit bien qu'en ce moment, où il y a des neuroleptiques qui sont prescrits largue à main nue partout, dans les asiles, qui sont redevenus des asiles dans beaucoup d'endroits, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? De la contention. C'est-à-dire qu'on fait un constat que l'ambiance humaine des soignants n'est plus à un niveau suffisant pour que les gens qui viennent, même quand ils sont agressifs et violents, soient accueillis et transformés par cet accueil de ces soignants qui sont à peu près en bonne santé. On voit bien que l'état actuel des soignants en psychiatrie est tellement, on pourrait dire, réduit à quilla que, évidemment, les soignants n'ont plus la force de pouvoir, devant un type qui est agressif, qui les engueule parce que, je ne sais pas quoi, il est en train de délirer ou qu'il est parano ou je ne sais pas quoi, eh bien, ces soignants, plutôt que de faire comme ça s'est fait à une époque toscaïtienne, pourquoi est-ce qu'il est agressif ? On va essayer de faire des activités ensemble, on va préparer à bouffer, on va aller voir au cinéma, je ne sais pas quoi, on va faire des trucs, et puis après, on se rend compte qu'il est plus agressif parce qu'on a pu parler ensemble autrement. Quand il est agressif, on le contient. Il y a un protocole pour ça. On ne doit pas être agressif avec les soignants. Si vous êtes agressif, vous êtes contenu, basta. Eh bien, on peut dire que le niveau actuel de souffrance des soignants en psychiatrie est tel qu'il ne leur permet plus de faire ce travail de la psychopathologie. Donc ça, moi, je crois que l'antipsychiatrie est passée à côté de l'histoire. Le seul truc qu'elle a pas raté, l'antipsychiatrie, à mon avis, c'est pour ça que j'en veux beaucoup, vous remarquez, c'est que les technocrates du ministère qui voulaient faire des économies ont trouvé que c'était vachement bien qu'il y ait des psychiatres qui disent « faut fermer les hôpitaux parce que ça rend les gens fous » et qui se sont dit « oh, la bonne occasion, on va devenir antipsychiatres nous-mêmes ». Et les mecs du ministère sont devenus antipsychiatres. Et maintenant, on voit bien, dans les ministères, actuellement, il y a principalement des antipsychiatres. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il faut fermer les hôpitaux parce que ça sert à que dalle, et puis que finalement les psychiatres et la psychiatrie, ça sert à que dalle, et on pourrait faire des économies là-dessus. Moyennant quoi, où est-ce qu'ils sont les fous, hein ? Eh bien, ils sont dans les asiles périphériques. Et quand ils ne sont pas dans la rue ou dans le métro.
Ou en prison. Voilà. Bon, ben alors, Benjamin, vous qui êtes le jeune du plateau, alors, donc, comment vous résistez ? Parce que, à croire Pierre, vous êtes complètement effondré, vous ne pouvez pas, vous pouvez qu'attacher les patients. Donc. Vous êtes un cas, alors. Parce que, donc, juste pour vous présenter, donc, Benjamin Royer travaille dans un secteur de psychiatrie à Asnières, dans un CMP, et puis avec un autre, un CATP, c'est un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. C'est-à-dire, vous les faites travailler, c'est ça ? Non ?
C'est quoi ? Non, c'est des groupes.
Et alors, à l'heure où l'on dit que tous les psychiatres ou tous les psychologues sont effondrés, comme vient de le suggérer Pierre, ben vous vous dites que non, ça va bien, que vous arrivez à faire plein de choses.
Alors, parler après tout ça, c'est vrai que c'est un peu... voilà. Et puis, surtout dans cette position de... Oui.
De
il y a eu les anciennes périodes, il y a eu l'histoire monumentale de Saint-Alban, qui est une histoire qui est effectivement incroyable et face à laquelle c'est compliqué de se confronter. Après, quand on a envie de faire quelque chose, on a envie d'être un peu désirant. Du coup, de prendre la parole derrière ça, c'est un peu compliqué, au point que moi, j'en ai même fait une varicelle, là, dont je me remets à peine. C'est-à-dire que j'ai récupéré la varicelle de ma fille. Donc, preuve que la question de la transmission dans ma famille, c'est un peu viral. Comment repenser un petit peu ces choses-là ? Effectivement, je crois qu'on est à une période qui est... Bon, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est pas le régime de Vichy, mais c'est pas non plus une période qui fait rêver. C'est vrai que beaucoup, peu de gens ont spécialement envie de s'engager en psychiatrie, je pense du côté des médecins notamment, du côté des infirmiers aussi, il n'y a pas énormément de vocation du côté de la psychiatrie. Moi, j'enseigne aussi en fac de psycho, et les étudiants en première année de psycho sont très étonnés de découvrir que psychologue, c'est aussi un métier qui amène en psychiatrie. Beaucoup pensent que non, psychologue, ça ne travaille pas en psychiatrie. Donc, bon... Au milieu de tout ça, moi, j'en veux quand même envie de dire qu'il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs qui sont des formes de prolongement un petit peu de cette histoire-là. Mais du côté des petites histoires, parce que je pense, comme ça a été dit, c'est une histoire de petites rencontres, d'histoire de petites personnes, mais de collectifs aussi. Là, dans les semaines qui viennent, il va y avoir notamment les semaines de la folie ordinaire, avec un programme assez, assez riche, à la fois à Reims, où ça existe depuis pas mal d'années, et puis à la fois en région parisienne, où je vous invite à regarder sur Internet, ou taper semaine de la folie ordinaire 2019, vous avez tout un programme de plein d'événements qui sont faits par des collectifs, et c'est là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très enthousiasmant pour moi. C'est qu'on voit quelque chose qui... Presque des poussées de boutons, excusez-moi, je suis encore dans mon traumatisme. Des poussées comme ça, de choses qui démangent un peu partout, mais qui sont des constructions à la fois liées à des lieux de soins, souvent, donc agencées à des CATTP ou des lieux dans lesquels des gens font ce boulot au quotidien de travailler avec des patients et puis d'essayer de construire des conditions d'accueil pour eux dans ces lieux et puis aussi dans la cité. Mais aussi des collectifs qui sont un peu plus en marge du soin, des groupes d'entraide mutuelle, des choses qui, il y a quelques années encore, s'opposaient, qui ont été beaucoup portées par le discours antipsychiatrique. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des nouvelles formes d'agencement qui se font, qui sont extrêmement, de mon point de vue, extrêmement enthousiasmantes. Donc il y a tous ces collectifs-là qui émergent, avec des circulations qui sont totalement nouvelles, entre des lieux de soins, des lieux alternatifs, des citoyens, des militants, des psychanalystes aussi, enfin, tout un tas de... qui, ça, à mon sens, sont vraiment des choses assez nouvelles, et aussi beaucoup portées par les patients. Ça, je crois que c'est aussi une des grandes nouveautés. C'est vrai que toute cette époque-là de Uri, Toscaïès et puis tous ces groupes qui se mettaient en place, bon, il y a eu le groupe de travail de psychothérapie et de sociothérapie institutionnelle, le GTPSY, qui a fédéré tout ce qui est le courant de la psychothérapie institutionnelle dans les années 60, avec Hélène Chéniaud aussi, un tas d'autres, Roger Gentil, un tas d'autres personnages assez importants. Mais c'était quand même avant tout des soignants qui faisaient ce travail-là de raconter ce qu'ils faisaient dans leur service, et puis de bosser ensemble, et puis d'essayer d'élaborer ensemble cette pratique pour en construire des concepts. Mais déjà, il n'y avait pas beaucoup d'infirmiers là-dedans, et puis les patients étaient un petit peu, ils étaient dans les lieux de soins, mais ils n'étaient pas aux premières loges, on va dire, de ce mouvement de transformation là de la psychiatrie. Et ça, je crois que c'est un petit peu une des grandes nouveautés. Depuis quelques années, je peux vous raconter un petit peu les choses qui se mettent en place. Comme ça, il y a notamment quelque chose que je trouve aussi très, très enthousiasmant, c'est le truc. Ça a démarré il y a maintenant 4-5 ans, je crois, il y a eu le premier forum interclub. Donc, dans la lignée de la psychothérapie institutionnelle, il y a eu les clubs thérapeutiques qui ont émergé. Le premier était à Saint-Alban, et puis il y a aussi le club des Peupliers, la SM13, dans les années 60 aussi. Et différents lieux comme ça qui... C'est pas une irruption de boutons là, mais c'est des petits furoncles un peu comme ça qui émergent, qui font leur boulot comme ça et qui cultivent le milieu. Et donc ces différents clubs thérapeutiques, il y a quelques années, ont commencé à se rassembler pour créer un premier forum interclub. L'initiative venait du Centre Artaud à Reims de rassembler tous ces différents lieux, à la fois pour pouvoir discuter de ce que chacun faisait et en même temps aussi essayer de montrer un petit peu les choses, parce que sinon on est un peu déprimé, puis on se dit que la psychiatrie c'est trop terrible actuellement, etc. Donc il fallait montrer un petit peu toutes ces choses qui existaient, mais de manière un peu isolée. Et donc le premier forum interclub a rassemblé comme ça, je crois, une vingtaine de clubs, donc organisés à Reims au centre Antonin Artaud. L'année d'après, c'est la Chenet qui a organisé ça à Chambord. Donc, on reste dans les trucs un peu royaux, de Reims à Chambord. Et là, c'était un peu plus de monde. Et l'année d'après, on a organisé ça donc avec plusieurs clubs en région parisienne. C'était au théâtre de Gennevilliers. Et au fur et à mesure qu'il y avait ces rencontres qui se faisaient, il y avait une pratique interclub qui apparaissait. C'est-à-dire que faire des groupes avec les patients et les clubs thérapeutiques, on connaissait. Mais là, il y avait autre chose qui émergeait. C'est qu'on commençait à rencontrer d'autres clubs, d'autres groupes, et à faire des choses ensemble, passer la journée ensemble, faire à bouffer ensemble, se poser la question de comment on gère l'existence d'un lieu, par exemple. À Angers, ils font ça vachement bien depuis pas mal d'années. Et donc, la pratique de l'interclub a émergé comme ça, et est venue l'idée de créer une fédération des clubs thérapeutiques. Alors, très vite, ça a amené à des discussions. Oui, mais fédération, c'est un truc assez, assez bureaucratique, assez chiant. Il faudrait que la manière dont on se rassemble soit elle-même à l'image de notre objet, soit elle-même à l'image de la créativité de ces lieux, et puis soit cette manière de se rassembler soit elle-même une forme de club à la puissance 2 ou à la puissance cube ou à la puissance que vous voulez. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée, de plutôt que d'appeler ça la fédération des clubs, d'appeler ça le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs, donc le truc. Ça aussi, c'est une dimension qui est assez importante dans ces lieux, quoi. C'est ce côté vivant et puis très, très marrant aussi, on se marre pas mal. Et donc, c'est des rassemblements qui ont lieu tous les 3 mois à peu près, qui rassemblent des clubs thérapeutiques des 4 coins de la France. même à l'étranger, parce qu'il y a aussi une communauté au Chili qui a rejoint ça. Alors, ils ne sont pas encore venus à nos réunions, mais on espère bien qu'un jour, on pourra les faire venir. Et donc, des rassemblements où vous avez une 60, 80 personnes, des fois, patients, soignants, sans aucune distinction là-dedans, qui discutent, qui passent la journée ensemble. Voilà, on parle effectivement de l'actualité de la psychiatrie, là, de pas mal de mouvements qu'ils prennent en ce moment sur... alors, à la fois sur des questions de revendication par rapport au travail, et puis là, le sens qu'on a dans le travail, puisque c'est vrai que pour énormément de gens, ceux qui sont engagés dans ce métier, au bout d'un moment, sont absolument plus du tout satisfaits de voir leur métier se transformer en gardiennage, où on attache les gens, puisque ça devient une sorte de norme. Et donc, il y a quand même un mouvement là de fond qui cherche à, ouais, à redonner un petit peu du sens là-dedans. Et donc, d'avoir ces croisements entre à la fois peut-être des... Donc là, il va y avoir là, dans quelques semaines, le printemps de la psychiatrie. Pareil, vous avez un site internet, vous pouvez taper « printemps de la psychiatrie ». Bon, je vois qu'il y a des gens qui connaissent bien. D'avoir à la fois ces mouvements-là de revendication, puis disons de lutte, et d'un autre côté, cette articulation avec des constructions d'espaces de soins, ça aussi, je pense, quelque chose de tout à fait inédit et tout à fait extraordinaire, qui est, dans le fond, quand même... tout simplement le prolongement de l'expérience de Saint-Alban. C'était ça, l'expérience de Saint-Alban, c'était comment est-ce qu'on construit des conditions pour vivre ensemble et dans lesquelles on pense ça à partir de ce que c'est que soigner des patients psychotiques. Donc moi, je ne serais pas du tout déprimé. Hein.
Vous êtes pas... Moi, je le suis. Et pour être clair...
je connais des psychiatres, si vous voulez.
Mais, non, mais Pierre, est-ce que quand même, pour dire les choses un peu brutalement, est-ce que ce n'est quand même pas la fin de la psychothérapie institutionnelle? Certes, il y a des... Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas la fin?
C'est les vieux, ça, c'est les vieux.
Non, je crois que c'est justement, l'expérience que raconte Benjamin, c'est très intéressant. C'est-à-dire que devant une situation de crise dans laquelle on est en ce moment, il n'y a pas que les gilets jaunes, hein, il y a la crise de la psychiatrie, la crise de la médecine, etc. On voit bien que la solution, c'est de se déprimer. Mais comme un petit bébé qui grandit et qui passe à l'état dépressif, il se déprime parce qu'il se dit « Oh bah, finalement, je vais être obligé de m'y coller. Hein. Je ne vais pas pouvoir rester à me faire faire tout par papa et maman. » Et donc, d'un seul coup, la dépression, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. C'est quelque chose qui est une structure qui transforme un état de fait, une constatation de la réalité qui est dure en ce moment, en quelque chose de « qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour en sortir ?» Hein. Et là, on voit bien que ce qu'il nous raconte, Benjamin, c'est très intéressant avec tous les gens du truc. Moi, je suis ça par Internet, évidemment. Ça, c'est le bienfait des réseaux sociaux. Eh bien, il me semble que les patients et les soignants trouvent ensemble des solutions de sortie de type fédératif, de type rassemblement, pour pas sombrer à la déprime actuelle et puis en faire quelque chose qui serait catatonique, mais en faire quelque chose qui est vivant, transformatrice pour les gens et qui puissent, à partir de leur vie quotidienne, en même temps se rendre compte que leur folie va mieux, que leur psychose va mieux, que de rencontrer des gens, de faire à bouffer ensemble, de trouver du boulot pour l'un, de faire un journal ensemble, etc., etc., ma psychose va mieux. Et donc ça, cette expérience-là, si les pouvoirs publics voulaient bien écouter ça, plutôt que d'écouter les seuls fondamentalistes, eh bien, on se rend bien compte que ça aurait des effets très importants. Et j'appelle, je ne sais pas s'il y a des gens ici de l'UNAFAM ou des associations de parents, mais si les associations de parents pouvaient dire, parce que les professionnels sont grillés auprès du ministère, pouvaient dire au ministère, il ne suffit pas de faire des recherches neurologiques, scientifiques, génétiques sur la folie pour avancer. Il faut les faire, mais ça ne suffit pas. Il faut continuer à travailler sur la question de l'humanisation de ces conditions qu'on fait aux malades mentaux. Et ça, à mon avis, l'exemple que vient de donner Benjamin est extraordinaire sur ce plan-là. Les gens vont bénéficier des avancées scientifiques, mais en même temps, on ne laisse pas tomber le filet interhumain qui est nécessaire pour exister. Et ça, je crois que c'est la même chose qui s'est passée en 40, la même chose qui se passe en 2018. Et je crois que c'est très important parce que ça permet à chacun des gens qui sont concernés par cette question, et je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui ne voudraient pas le savoir, que dans toute famille, il y a un schizophrène ou un maniaco-dépressif. Donc ne croyez pas que vous n'êtes pas concerné, vous l'êtes de toute façon. Dans toutes les familles qui sont concernées, évidemment, c'est très important qu'on ne se dise pas de façon idéalisante « j'attends que la science trouve ce qui va me permettre d'être guéri ». Ça, c'est des conneries. Il faut évidemment compter sur la science pour améliorer tout un tas de choses qui nous permettent de mieux comprendre. Mais en aucun cas, ça va suffire à être humain avec les malades mentaux qui ont très besoin d'humanité autour d'eux.
Tout à fait. Mais toi-même, fédérer, mais fédérer aussi les gens voilà. qui ne pensent pas comme vous.
Voilà.
Oh, on ne peut pas dire que le monde de la psychothérapie institutionnelle fédère des gens qui ne pensent pas comme elle.
Non,
et c'est
non.
pour ça que, Lise, avant de vous donner la parole, puisque qu'on ait un petit débat, je voudrais juste vous poser une question. Ce qui me frappe aujourd'hui, dans ce moment donc, qui ne serait pas si désespérant que ça, c'est que la révolte, mais en tout cas l'humanisation, elle n'est pas portée par nos amis psychiatres. Alors, elle est portée, la question de l'hospitalité, pour hein, l'hospitalité, elle est plutôt portée par le personnel soignant. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou vous qui...
Non, comment est-ce que vous... Moi, je pense que la catastrophe scientiste pure, hein, au sens de la science, et puis c'est tout, là, elle est portée par les psychiatres. Mais on a vu, hein, les premiers gilets jaunes, c'était bien avant le mois de novembre, à côté de Rouen, l'hôpital à côté de Rouen, quand ils ont mis des gilets jaunes et qu'ils ont campé, ils ont fait des cabanes devant l'hôpital psychiatrique sur le rond-point. Pour moi, c'est vraiment un moment qui maintenant prend une autre allure. Quand les infirmiers du Havre se sont perchés sur le bâtiment d'accueil,
mais vous répondez pas à ma question. Pourquoi
alors pourquoi les psychiatres porte, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une chose qui est très différente, qui de mon point de vue est tout à fait neuve, c'est le mouvement infirmier. Il y a un mouvement infirmier qui est, que moi, pourtant j'ai un certain âge, je n'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu des groupements du personnel sans psychiatre qui dirige ou qui indique la direction. Là, ce sont des infirmiers et des infirmières qui disent on ne veut plus travailler de cette manière, on veut travailler autrement, on a des idées. Alors, ils ne veulent pas forcément se référer à Tosquelles, mais ils veulent de toute façon cesser et la contention et l'instigation, disent-ils, de la violence. Des très mauvaises conditions, enfin, tout le monde a dû suivre les revendications. Il y avait à un moment 14 hôpitaux psychiatriques en grève, à Lonne, au Mans, etc. On n'entend jamais ça dans les médias, mais on n'a pas souvent le point sur l'ensemble des luttes à l'intérieur des hôpitaux par un personnel qui n'est pas comment dire mené par un courant spécifique avec des leaders charismatiques. On a des infirmières debout, quoi. Et ça, il y a quelque chose qu'il faut absolument... Enfin, moi, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle. Le personnel soignant n'est pas prêt à travailler comme Agnès Buzyn le lui demande, le lui impose.
Je voudrais rajouter un truc. La formation des psychiatres, il faut quand même que vous ayez une idée là-dessus. Hein. La formation des psychiatres est faite par les profs de psychiatrie, officiellement, à l'université. Mais pour devenir prof de psychiatrie maintenant, ce n'était pas mon cas parce que je n'aurais jamais pu devenir à l'époque. Hein. Mais maintenant, il faut avoir une formation scientifique sur le plan de la publication scientifique internationale selon les canons de la beauté classique. C'est-à-dire, il faut faire de la neurologie et de la génétique. Si vous publiez des articles sur la psychothérapie, etc., ce n'est même pas la peine de vous présenter à l'agrégation, vous ne l'aurez pas. Donc la seule solution pour devenir prof, c'est de faire de la génétique et de la neurologie, des neurosciences. Et évidemment, si vous faites ça pendant 10 ans pour pouvoir être nommé prof, vous n'aurez pas en même temps eu le temps de faire de la psychothérapie et ces choses-là. Donc quand vous serez prof, qu'est-ce que vous allez apprendre à vos étudiants? Vous allez apprendre ce que vous avez appris, c'est-à-dire la psychothérapie est passée à la trappe en une génération. Alors faut pas dire que tout ça, c'est des trucs secondaires. C'est essentiel. S'il n'y a personne comme prof à l'université qui enseigne la psychothérapie escalité, ça disparaît de l'enseignement. Et les psychiatres ont beau faire une analyse s'ils le veulent, etc., par ailleurs. Évidemment, ça n'a pas la force que ça a quand c'est par l'université. Et évidemment, les nouveaux psychiatres sont coincés. Bon, donc, vous voyez, c'est très important, cette question-là.
Que tout se joue.
C'est très important parce que ça a des effets sur ce que vient de dire Lise, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui restent les témoins de la relation directe avec le patient, c'est les infirmiers. Et évidemment, c'est eux qui portent le combat pour dire il faut que ça continue.
Et les patients.
Évidemment, avec les patients.
Alors, à vous, on a 20-25 minutes un petit peu pour vous écouter. Alors, je ne sais pas comment ça se fait ici, mais Ah ben alors voilà. Vous voulez que j'y aille, non?
Ben non,
oui. Ah si, alors je peux vous dire que pour animer quelquefois les débats, c'est beaucoup mieux quand c'est l'animateur qui y va.
Ah bon?
Oui.
Si vous pouviez poser des questions courtes ou faire des remarques courtes, parce que on est assez vu qu'il y a la projection du film à la suite, donc on a assez peu de temps. Merci.
On a grosso modo jusqu'à 8h30, c'est ça? Hein? D'accord, donc on a encore un peu de temps. Donc vous pouvez nous raconter votre vie.
Merci. Bonjour, moi je m'appelle Maëva, je suis interne en psychiatrie en deuxième année. Je fais partie des gens qui organisent les SDLFO, donc les semaines de la folie ordinaire. Moi, ce que j'aimerais relever, c'est que ben, du coup, dans mon cursus de psychiatre, j'ai aucune formation en psychothérapie institutionnelle. J'ai eu la chance de faire des rencontres dues au hasard et qui font que ben, j'ai pu rencontrer ça. Mais je pense qu'il y aurait... bien sûr, à l'université, on ne l'enseigne pas. Et autant que, enfin, on n'enseigne ni la psychothérapie institutionnelle, ni la psychothérapie tout court, si ce n'est la TCC. La psychanalyse, n'en parlons même pas, ils sont blacklistés. Et je pense qu'il y aurait quelque chose de votre... comment dire ? De votre responsabilité à vous, en fait, à essayer de diffuser ça par d'autres moyens. C'est-à-dire que même en étant intéressé par la chose, en étant au courant, et etc., aujourd'hui, à part faire partie de collectifs, il n'y a pas de séminaires qui sont développés, il n'y a pas de... Je veux dire, les gens qui s'intéressent à la psychothérapie institutionnelle n'essayent pas de rentrer dans les facs via les assos étudiants, etc. Et ça, je trouve ça dommage, et je pense que c'est votre responsabilité, justement, de transmettre quelque chose, parce que nous, on a besoin d'une transmission. On peut travailler, on peut aller chercher, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on nous aide à avoir des outils, parce que ben, dans nos stages, c'est très compliqué, on n'est pas du tout encadré de ce côté-là. Moi, j'entends des trucs qui sont à l'hôpital abominables, il y a toutes ces histoires de protocoles, que du coup, comme il y a protocole, il n'y a plus de réflexion clinique. Les réunions de synthèse se résument à pipi, caca, contention. Donc je pense qu'il y aurait quelque chose aussi de vous, de votre côté, à mettre au travail, et à peut-être à créer un dispositif pour justement que ça se pérennise, parce que c'est complètement en train de disparaître.
On va vous répondre. Benjamin va vous répondre, puisqu'il travaille aussi à l'université. Juste, on peut quand même... Certes, la psychothérapie institutionnelle est une histoire magnifique, mais on ne peut pas dire... Quand même, vous avez une certaine responsabilité, puisque, mis à part toi, Pierre, grosso modo, vous avez déserté l'université. Hein, vous n'avez pas voulu prendre les postes universitaires.
C'est
Benjamin, alors oui, un petit peu pour répondre à mademoiselle.
Je peux faire qu'une réponse très partielle à la question que vous posez. Mais c'est vrai que la plupart des gens de la psychothérapie professionnelle n'ont pas été à l'université pour enseigner, ils sont formés enseigner. Certains à l'université, mais voilà, à part Pierre. Mais ça reste quand même aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui se transmet plus dans la transformation. Moi, j'ai une toute petite activité d'enseignant à l'université, en tant que chargé de TD, donc je suis vraiment au bas de la chaîne alimentaire universitaire, si vous voulez. Et simplement, ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, ce qui avait compté dans ma formation, c'était... effectivement des gens que j'avais pu écouter en séminaire, des colloques, des petits collectifs, mais c'était aussi comment j'avais été accueilli dans des lieux de soins, dans les hôpitaux de jour, et donc comment des patients avaient pu avoir des paroles qui m'avaient transformé. Alors ces paroles, je pouvais après les déplacer, aller moi-même en analyse et puis retravailler ça faisait des interprétations. Après j'allais à la fac pour écrire mon rapport de stage, mon mémoire, machin, mais c'était quand même ces paroles-là qui, dans un certain lieu dans lequel l'ambiance était travaillée, dans lequel il y avait de l'institution, dans lequel il y avait du collectif, et que moi j'étais entouré par ces collectifs-là, porté par ces collectifs-là, ça avait des effets sur moi, cette parole-là. Et donc en partant de ça, à la fac, j'ai essayé de mettre en place des choses un petit peu similaires, en me disant que c'était peut-être des institutions portées par des patients qui pouvaient transformer transformer quelque chose et former les étudiants. Beaucoup plus qu'on peut faire un cours magistral sur ce que c'est que la psychothérapie institutionnelle, amener l'histoire, amener les concepts, mais dans le fond, que ce que l'étudiant va emporter avec lui après quand il va aller sur le terrain. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis en place des rencontres entre des lieux de soins. Donc là où je travaille à Asnières, on va régulièrement former les étudiants. C'est-à-dire qu'on a appris comme ça aux étudiants à faire une émission de radio. On fait une radio au CATTP. Et donc, les étudiants ont dû faire une émission de radio en direct d'un amphithéâtre. Et c'était les patients qui expliquaient aux étudiants, bon, bah, Coco, voilà comment tu fais. Là, tu passes le micro, etc. Là, cette année, on a refait une autre expérience où on a demandé aux étudiants, donc une promo de première année de psycho. Donc, ça fait à peu près 300, 350 étudiants, 200 à la fin du premier semestre. Et on leur a proposé de faire un journal comme les patients font dans des lieux de soins. Et donc, du coup, c'est comme ça que les patients ont enseigné aux étudiants, non pas exactement qu'est-ce que c'était que le soin, etc., mais qu'est-ce que c'est que l'ambiance dans un groupe journal qui fait dans un CATTP un journal, etc. Et du coup, c'est les patients qui, eux, sont porteurs de cette forme de transmission aussi. Donc, c'est une manière un petit peu... Mais c'est effectivement très anecdotique, ça. Mais bon, ça produit un petit truc. Je pense que je ne sais pas ce que ça donnera dans quelques années. Les étudiants, une fois qu'ils auront été eu ce premier moment de déformation en première année, qu'est-ce que ça donnera dans quelques années. Mais je pense que c'est voilà, favoriser des rencontres transférentielles. Je pense que c'est ça surtout qui peut nous former. C'est ça surtout qui peut nous humaniser et puis faire qu'on peut inventer des choses derrière. Quoi.
Et ce n'est pas si vrai que ça qu'il n'y a pas de séminaire hein.
Non, mais c'est l'université.
Il y en a un tour de lecture des archives Tosquelles. Il y en a un à Rennes de mise en discussion du travail de compagnonnage. Et puis, il y a énormément de lieux qui travaillent de manière extrêmement sérieuse avec une formation de psychothérapie institutionnelle et qui accueille des dizaines de stagiaires. Enfin, je veux dire, vous avez la Borde, la Chenet, je vois Artaud, Asnières, Château-Renaud, Azel-Rideau. Enfin, il y en a, j'en oublie, je suis désolée pour ceux que j'oublie, mais il y a vraiment des tas d'endroits où on apprend par compagnonnage. On n'apprend pas grand-chose à l'université. Il n'y a pas eu beaucoup de monde qui a été professeur d'université, à part Pierre. Moi, j'en connais pas d'autres.
Attendez, c'est quand même un échec.
Mais pourquoi c'est un échec? Qu'est-ce qu'on va foutre à l'université?
Mais voilà, mais voyez, c'est un drôle d'aveu. Autour de cette question-là.
Elle a raison, cette interne, quand elle pose cette question. Mais en même temps, moi, je vois l'expérience récemment à l'Institut Mutualisme Montsouris. Des infirmiers et des internes m'ont demandé de venir faire des topos sur la psychothérapie nationale. Donc, la responsabilité est partagée. Il y a eu une enquête faite auprès des internes il y a quelque temps pour savoir s'ils étaient contents de leur internat, de leur formation. Et la plupart ont répondu, bon, on est psychiatre, d'accord, mais on n'est pas formé à la psychothérapie, ça manque. Hein, et donc, à ce moment-là, il y a des psychiatres qui se sont dit, quand même, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Et donc, à ce moment-là, il y a eu des endroits où se sont ouverts des enseignements de psychothérapie, des possibilités d'enseignement de psychothérapie. Donc, il me semble qu'il faut que les internes, hein, je vous renvoie la balle, il faut que vous demandiez aussi à vos profs qui vous disent des choses sur la psychothérapie professionnelle, c'est-à-dire qu'ils fassent intervenir des gens qui connaissent la question. Hein. Et ça, à ce moment-là, d'un seul coup, le psychiatre qui pense que les internes, maintenant, depuis 10 ans, qu'on n'en parle plus, on va être tranquille parce qu'ils ne vont plus nous emmerder... Quand il y a un interne qui leur dit « Mais et dites non, parlez-nous de Tosquelles », le mec, il se dit « Merde, je croyais que c'était fini, ces conneries ». Eh bien, ce n'est pas fini, parce qu'il y a des internes qui continuent à poser des questions là-dessus, parce qu'ils vont en stage dans des endroits où on leur parle, et je crois qu'il faut que ça continue comme ça, c'est-à-dire que les enseignants soient questionnés par les étudiants pour pouvoir justifier de cette position incroyable de dire « La psychothérapie institutionnelle dans l'enseignement universitaire français, ça n'existe pas ». Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, enfin ? Hein ? La psychothérapie nationale, ça existe. C'est même ça qui a fécondé principalement la psychiatrie française. Alors je trouve que c'est quand même une certaine justice que les internes viennent demander aux profs « Faites-nous des trucs sur la psychothérapie nationale ». Et à ce moment-là, ils s'arrangeront pour le faire.
Merci. Une question là, juste là-bas.
Moi, j'ai tout simplement une question qui est un peu, on dirait, une utopie. Mais je me présente pour savoir d'où je parle. Je suis responsable et développeur des activités d'une petite association qui se préoccupe de la question des patients. Et on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes. C'est pourquoi ça me vient comme question à poser. Et ça concerne presque toute la société en général. Hein, parce qu'en tant que parent, quand on a un parent ou son fils ou quoi qui est pris pour aller dans la question de, d'être hospitalisé dans les asiles, il se pose un problème, mais on dirait de manière générale. Parce que c'est la psychiatrie fait que quand on arrive à l'hôpital, c'est un lieu où on veut le soin. Donc on a des cas de figure, par exemple, où vous êtes père, votre fils, il est emmené là-bas par les urgences. Vous arrivez, vous êtes aussi fou, puisque le lieu où on va vous recevoir, c'est le lieu où on enferme l'enfant. Et vous êtes enfermé, puisqu'il faut parler avec votre enfant, devant le personnel, et qui, en fait, se retrouve à vous recevoir comme les deux malades, quoi. C'est-à-dire que, donc, ça pose un problème très difficile. On a essayé de voir, en tant qu'association, comment on pouvait essayer de voir. Mais sauf que les oreilles sont fermées, que ce soit le personnel de soins, que ce soit au niveau de l'administration telle que c'est fait. Donc, on est en train de se bagarrer devant ce problème-là. Donc, du coup, on dit, puisque les réflexions sont lancées à votre niveau, est-ce que ce genre de problème-là, vous ne pouvez pas essayer un peu de réfléchir sur ça, comment il faut les remonter? La deuxième question, c'est la peur, qui est une peur presque mondiale, il faut dire. Puisque toutes les sociétés du monde entier, ils ont la question de la folie. Ce n'est pas seulement en France. Hein. Mais vous avez des colloques parfois que vous faites, professeurs d'université ou peut-être intervenants. Mais à ces colloques-là, qu'est-ce que vous traitez? On peut imaginer, mais ça c'est une folie aussi. Et puisque dit-on que quand on dit quelque chose qui n'est pas, comme on dit toujours, on devient fou. Mais c'est une utopie, qui est une question utopique qui dit. Puis avec le fait que la rationalisation est en train d'arriver à un rythme terrible où, par exemple, la maladie de la folie va être traitée par les neurosciences. Toi, on va faire des appareils comme ça, tac, 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 après tu n'as plus de folie. Et donc au niveau du monde entier, avec cette rationalisation très accrue, est-ce qu'on ne pourra pas arriver à un moment donné où, si on examine la question du rôle des systèmes familiaux dans la société, où une société va venir développer telle que le soin de la folie devient un mécanisme pour lui?
Merci. Vous voulez répondre ou non? Est-ce qu'il y a d'autres... Monsieur, il y a quelqu'un au premier rang, le bras tendu.
Bonsoir. Moi, j'aurais une question, parce que j'arrive pas à comprendre, par rapport à la théorie que vous avez exposée au début. Ma question, ce serait par rapport au psychotique. Est-ce que c'est une structure figée ou je sais pas comment vous l'apprivoisez, vous l'appréhendez parce que j'ai l'impression qu'on fait une distinction entre névrosé et psychotique, et donc le psychotique serait une structure figée à laquelle on répond par la relation transférentielle et la constellation. Et je me demande si est-ce que voilà, c'est figé ou comment on fait pour que ça bouge.
Oui, alors figé ou pas figé?
Je pense que c'est pas du tout figé. C'est une structure évidemment différente de la névrose, mais ce sont des gens qui ont besoin beaucoup d'être portés, on pourrait dire, dans la vie quotidienne, parce que quand ils sont tout seuls, ils sont surtout, on pourrait dire, le lieu d'angoisse très très importante qui les met en petits morceaux. Et donc, d'être entouré, d'être dans des groupes, enfin un peu comme a raconté Benjamin, ça leur permet de sentir que cette solidarité autour d'eux, au cas où ils se sentiraient en difficulté, ils peuvent s'appuyer sur les autres. Hein. Et ce vécu dont les patients psychotiques nous témoignent, c'est quelque chose qui est d'une extrême importance pour eux. Ça n'empêche pas que les médicaments sont très importants, ça n'empêche pas que tel et tel type d'intervention spécifique est très importante pour eux, mais on sent bien que cette solidarité interhumaine autour d'eux les contient à des moments où, s'ils étaient tout seuls, ils seraient envahis par des angoisses qu'ils ne peuvent pas du tout réguler tout seuls. Hein. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'aspect, au-delà du médicament et des choses comme ça, il y a aussi l'aspect humain qui est une part très importante de la thérapeutique en elle-même. Et on n'ose même pas dire que c'est thérapeutique, c'est humain. Hein, donc ça devrait aller de soi. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est que cette part-là disparaît parce qu'elle n'est pas scientifiquement mesurable. Or, dans toute relation humaine, ce n'est pas scientifiquement mesurable, mais c'est essentiel à la survie de toute personne dans un groupe. Donc, les personnes psychotiques, on pourrait dire qu'elles ont cette fragilité particulière d'avoir besoin du groupe qui les entoure pour pour pouvoir vivre avec les autres. Mmh. Et ça, je crois que c'est vraiment une des particularités de la psychothérapie actionnelle, qui devrait, comme Uri le disait souvent, ça devrait être non pas la psychothérapie actionnelle, mais la psychiatrie. Mmh. Ça devrait être la psychiatrie de base. Mmh. Voilà.
Pour moi, si, pour compléter juste un petit peu la question que tu poses, Johan, ça rejoint la question de monsieur aussi. C'est aussi quelles sont nos théories sur ce que c'est que la folie. Enfin, est-ce qu'il y a un moment où on a une théorie qui enferme, de dire, bah, voilà, un tel, il est psychotique, ça a toute sa vie, sa structure, etc., et puis telle structure ou telle autre structure. Ou est-ce qu'à un moment, on peut imaginer aussi qu'il peut y avoir des effets d'aménagement, etc. Moi, j'ai une phrase de Roger Gentis qui m'avait beaucoup marqué, c'est dans ce petit livre qui s'appelle Les schizophrènes, qui est absolument remarquable, ce petit livre. Dedans, il explique, bah, voilà, quelqu'un qui raconte son délire, qui raconte que bah, cette nuit, ses organes ont été transformés en pierre, etc., enfin, qui raconte son délire psychotique. Dans certaines cultures, on va lui filer du fric, on va lui donner à manger, on va s'occuper de lui, on va l'écouter. On va écouter ce qu'il raconte. En fait, on va en faire un prof de fac, quoi, dans certains pays. Et dans d'autres, bah, on va le faire taire, on va complètement le... Ça rejoint un peu les questions, voilà. Quelle théorie on a qui permet ou pas de penser l'altérité et puis la différence et comment on peut critiquer ça? Je pense que les neurosciences, là-dessus, elles ont absolument... Rien, elles ne peuvent pas produire du sens là-dessus, elles ne peuvent pas produire du sens sur l'expérience de la psychose comme étant constitutive du fait humain. Ça ferme complètement. Certaines formes de psychanalyse aussi peuvent avoir un discours totalement fermant là-dessus. Et je pense que c'est un des effets aussi de la psychothérapie actionnelle, de produire une sorte d'instance critique, d'analyse. Est-ce que la théorie va être quelque chose qui va servir à sa propre production, ou est-ce qu'elle va pouvoir s'altérer et se modifier au contact des personnes qu'elle rencontre? Est-ce que la psychanalyse peut évoluer? Ben, c'est ce que racontent les analystes de la première heure qui ont rencontré les patients psychotiques. Ferenczi, dont parlait Pierre de Lyon tout à l'heure, en tant que premier analyste qui a amené pas mal de choses aussi, qui a eu, je pense, des effets sur la formation de Toscaïès, ben, c'est un analyste qui s'est posé des questions sur le dispositif analytique et qui a accepté qu'il soit modifié parce qu'il a rencontré des patients beaucoup plus régressifs, beaucoup plus malade, etc. Voilà, je penserais un petit peu ce lien-là.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y en a deux. Philippe Artière.
C'est lui.
C'est lui.
Oui. Bonsoir. Merci bonsoir, beaucoup. Monsieur. J'étais très frappé intéressé par le fait que vous nous insistiez sur que ces personnalités viennent du dehors. Toscaïès vient d'Espagne. On sait qu'il y avait aussi un interne libanais à Saint-Alban à ce moment-là, qu'il y avait des patients qui venaient d'Alsace. D'ailleurs, Fanon. On peut se poser la question de savoir comment tout ça...
Fanon.
Il y a Fanon qui vient plus tard. Et puis, en fait, quand vous parlez de l'antipsychiatrie, par exemple, vous parlez des Anglais en disant, bon, ils prennent le thé, ils n'ont rien compris... On vous parlait pas de Basalia, qui est quand même un mouvement. En vous écoutant, je me disais, c'est intéressant parce que quand j'écoute les camarades de Trieste, j'entends la même chose. À Trieste, c'est comment on hérite. Qu'est-ce que c'est que cet héritage-là et comment on l'historicise. Et j'ai trouvé le propos de Benjamin, je ne le connais pas, mais tout à fait, d'une certaine manière, réjouissant dans la mesure où cette question de l'héritage, finalement, vous la réglez dans le présent. Et dans le présent, sans vous dire, bah oui, effectivement, il y a eu Saint-Alban. Saint-Alban, aujourd'hui, si vous y allez, c'est terrible. C'est un parking. Alors, il y a la Borde, il y a toute cette histoire-là. Et qu'est-ce qu'on en fait, si ce n'est inventer peut-être les lieux qui sont les lieux d'aujourd'hui. Et du coup, ma question, elle revient sur qu'est-ce qu'il en est de vos échanges avec, quand je pense à Trieste, par exemple. Trieste, c'est pas un lieu anodin. Trieste, c'était à la frontière. C'est un lieu border. Il y a plein... Fanon, il vient de Martinique, il arrive en Algérie, il circule. Donc, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette circulation de ces, de ces énergies, donc de ces agencements un peu quand Castel allait en Italie, revenait, ça bougeait. Là, on peut se demander dans quelle mesure ça ne s'est pas un peu refermé.
Très bonne question de Philippe Artière. Pierre.
Moi, je veux
C'est vrai. Moi, c'est vrai que on a quand même l'impression d'un monde.
Moi, je trouve pas du tout que ce soit refermé. Oh, bien au contraire.
Non, mais je veux bien que vous soyez optimiste, mais quand même, faut
mais
pas.
Non, mais c'est la vérité. Il y a, les années 80, tout le monde les regrette. On regrette notre jeunesse parce que, je veux dire, qu'est-ce qui se passait en 1980? Si je prends le département dans lequel
j'avais
j'habite...
J'avais pas la varicelle, moi, à l'époque. Je trouve ça plutôt pas mal, tu vois.
Remarque, du coup, tu aurais mieux fait, peut-être...
De l'avoir
à ce moment-là. Tu aurais moins de...
Allongé.
Mais, en tout cas, je ne vois pas de quelle époque dorée on parle.
On parle pas de l'époque dorée, il dit qu'il y avait des échanges.
La circulation actuellement entre les établissements entre eux, quand ils nous parlent du terrain de rassemblement d'utilité des clubs, qui rassemble des familles, des patients, des infirmiers, etc. D'accord, il n'y a pas de psychiatre connu. Il n'y a pas de psychiatre, voilà. Mais je veux dire, quand vous voyez la vigueur des associations de patients, la vigueur des associations de familles, comme jamais, il y a quelque chose qui se passe.
Les associations de patients vont mal. Pourquoi il faut mettre un peu dans la réalité?
Non, mais qu'elles aillent mal. Quand ont-elles été bien?
Mais d'accord, mais arrêtez de nous dire que les associations de patients sont une vraie révolution. Les pauvres, ils vont très mal.
Non, mais ils vont très mal.
Il n'y a pas une association qui marche. Attendez, arrêtez.
Si, il y a le CRPA, il y a des choses assez énormes.
Mais ce n'est pas vrai.
Non, je trouve qu'il ne faut pas non plus... C'est pour ça que
quand est-ce que ça a été bien?
Mais ce n'est pas le problème.
Je veux dire, je ne vois pas ce qui est perdu. Les gens de Trieste, par exemple, on a Giorgio Calea, par exemple, des gens comme ça ont circulé à la Borde, continuent à circuler à Landerneau, etc. On n'est pas... je ne sais pas de quel Eldorado on parle.
D'accord. Monsieur Luc Boltanski, qui veut parler? Là, il est là, juste à côté de vous.
Merci, madame. Oui, je voulais poser une question un peu naïve. Mais parce que une question un peu naïve parce que je ne connais pas bien l'histoire de l'hôpital psychiatrique. Mais un hôpital psychiatrique ou un service n'est pas un isolat. Et lorsque, en commençant, Eric Favreau a parlé du niveau d'innovation, est-ce que j'aurais aimé savoir quel était le réseau de contrôle dans lequel se trouvait Saint-Alban. Contrôle administratif, contrôle médiatique, contrôle des familles, contrôle policier certainement. Ah, mais ce n'est pas forcément le contrôle policier dans ce cas-là qui est le plus difficile. Et donc, je pense que pour ce qui est des organisations d'innovation, de recherche, moi je le vois dans les domaines que je connais mieux, l'accroissement du niveau de contrôle bien intentionné a eu des effets extrêmement importants et notamment l'exigence de sécurité, les demandes extérieures, la crainte médiatique, etc. Et donc j'aurais aimé avoir votre avis sur ce problème. Ce qui ne veut pas dire que évidemment, que toute libre entreprise est bonne et que vous supprimez le contrôle. Mais je pense que c'est précisément la tension entre un contrôle surtout administratif par des gens compétents et une soi-disant innovation n'importe quoi qui est un vrai problème par rapport à des processus comme ceux dont on parle aujourd'hui.
Merci.
Je trouve que c'est une question très intéressante parce qu'en fait, elle met en évidence le fait qu'à l'époque de Toscaïès, l'ère toscaïsienne, hein, on parle comme dans la géologie, les contrôles dont vous parlez étaient quasiment absents, hormis justement ceux qui étaient d'ordre politico-policier, quoi. En fait, il y avait une liberté énorme qui était possible pour les gens, mais avec des moyens très limités. Ce qui fait qu'ils avaient très peu de moyens, mais beaucoup de possibilités imaginatives, de fécondité, on pourrait dire, pour trouver des choses, des pistes intéressantes. Et les gens qui étaient au ministère à l'époque étaient très peu nombreux pour pouvoir contrôler quoi que ce soit et s'intéressaient beaucoup à l'aspect innovant de ces expériences qui a été menée. Et dans l'histoire de la psychothérapie institutionnelle, une des saintes laïques, c'est Madame Mamelet, qui était la conseillère ministérielle qui s'occupait de la psychiatrie, qui connaissait toutes les histoires des psychiatres de France, de tous les asiles de France, et qui était intéressée par les innovations et qui les soutenait. Et donc on voit bien que là, on pourrait dire la pensée, on pourrait dire stalinienne de l'administration s'est développée progressivement. Le principe de précaution a envahi la plupart des pensées fécondes et occupe dans la pensée féconde de la plupart des acteurs une place tellement énorme qu'il reste très peu de place pour la fécondité et l'invention. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les rouages sont, on pourrait dire, grippés, principalement, me semble-t-il, de ce fait-là. Hein, je prends ne serait-ce qu'un exemple, la possibilité pour la psychiatrie de continuer à inventer la question des clubs et de l'actualiser, un peu comme ce que raconte Benjamin. On voit bien que les gens développent tout un tas de possibilités d'utiliser la situation de loi 1901 pour organiser des choses très, très marrantes et fécondes comme ils les racontent. Mais il y a tout de suite des gens dans les administrations qui se mettent à dire « Mais attendez, c'est de la gestion occulte de l'argent, etc. etc. » qui ont des idées, on pourrait dire, parano par principe, sur ce qui est en train de se faire, qui est innovant, et qui vont mettre en difficulté tous ces systèmes-là parce qu'ils ne rentrent pas dans les cordes, dans les clous de la pensée stalinienne administrative. Et donc on voit bien que la fécondité qui serait quand même très nécessaire en ce moment, puisqu'à nouveau les moyens sont très peu disponibles, eh bien elle est stérilisée en grande partie par ces questions-là. Et les discussions qui ont lieu dans les hôpitaux, dans les CME, dans les commissions médicales d'établissement, portent principalement sur les principes de traçabilité, de vérification des trucs, et pas du tout sur les inventions. Quand on rencontre quelqu'un de l'ARS et qu'on lui dit « ça serait bien, on a l'idée de créer un truc, etc. », le mec dit « attendez, dans quel cadre, avec quel circulaire, dans quelle loi, etc. » Et avant même que vous ayez fini votre phrase, votre désir est retombé et vous repartez la queue basse. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de très important qui se produit là, parce que c'est en marge de tous ces systèmes de contrôle. C'est pour ça que moi, j'y vois beaucoup d'importance, parce que ça développe quelque chose qui est retrouvaille des espaces qui ne sont pas occupés par la technocratie-bureaucratie, mais qui laissent la fécondité disponible.
Puis peut-être je nuancerais ça moi, en disant qu'au niveau des ARS et puis la Haute Autorité de Santé, en général, ils y comprennent que dalle à ces trucs-là. C'est-à-dire qu'on va aller voir en leur disant, quand des fois on rencontre des gens, parce que, à part peut-être des fois si on tombe sur quelques gens pervers qui peuvent se loger là-dedans, comme on peut trouver partout des gens pervers, là c'est emmerdant quand ils ont un peu de pouvoir, bah, quand on va leur montrer après ce qu'on fait, ils trouvent ça vachement bien, ils disent, ouais, c'est bien et tout ça. Alors eux, ils mettent ça dans des cases, réhabilitation, psychosociale, toutes ces conneries-là. Mais ils nous embêtent pas forcément, enfin on peut faire notre truc, et puis il y a même moyen peut-être, ça aussi j'y crois beaucoup quand même, de modifier quand même ces trucs-là, c'est-à-dire d'aller aussi un petit peu les altérer de la même manière que on sait que nous-mêmes on est transformés par la rencontre avec les patients, donc un administrateur, il n'y a pas de raison, il est peut-être un peu plus borné dans son rapport à l'inconscient, mais il n'y a pas de raison que lui-même il soit pas un peu déplacé là-dedans, quoi, voilà.
Merci, je crois qu'on doit peut-être terminer, non, on peut prendre encore un peu de...
Une dernière question.
Ah ben alors voilà.
Une question. Une dernière. Je voudrais juste revenir sur le terme de psychothérapie qui a été employé tout à l'heure pour dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, les technocrates, comme on les appelle, ils sont en train de faire une sorte de glissement sémantique sur le terme de psychothérapie qui ne relève plus du tout du rapport humain, etc. Parce qu'aujourd'hui, on classe sous la psychothérapie la remédiation cognitive, les TTC... En fait, tout ce qui est en train de se mettre en place dans le système pour faire changer les choses, en fait, donc c'est un mensonge absolument qu'il faudrait dénoncer, je ne sais à quel niveau, mais que là, c'est vraiment un terme qui n'a plus de sens.
Il y a deux logiques qui sont en opposition frontale, et vous avez le mérite de le souligner. Il y a tout ce qui est du côté de ce qu'on pourrait appeler les protocoles, c'est-à-dire une pensée a priori sur... Voilà le protocole que doit suivre un patient qui a été étiqueté dans le DSM-5 schizophrène. Il doit faire ce protocole-là. On va l'adapter un petit peu en fonction d'eux, mais très peu. Et puis, il y a tout le travail psychothérapique au sens strict. Et le psychothérapique se fonde sur l'a posteriori. J'ai traversé une expérience avec la personne et dans l'après-coup, je réfléchis avec lui ou elle sur quelle est la qualité de cette expérience. Et on voit bien que la thérapie comportementale, tous ces trucs que vous évoquez, c'est des choses a priori. C'est avant, je me pointe en me disant, il faut que j'arrive à tel résultat. Oui, parce que la psychothérapie, c'est a posteriori. Donc appeler ça de la psychothérapie, les TCC, la remédiation, etc., c'est de l'imposture.
Exactement.
Ça ne veut pas dire que ce n'est pas complémentaire. Ça peut l'être, mais ce n'est pas la même chose. Hein. Et je pense qu'il y a une banalisation aujourd'hui qui est tout à fait regrettable à ce sujet-là.
Merci infiniment. Juste pour terminer, un mot. Ma voisine veut parler d'une maison d'édition qui fait un travail tout à fait exceptionnel.
Sur la question des transmissions, on a la chance d'avoir une éditrice qui va progressivement nous donner accès à l'œuvre complète de Tosquelles et de Jean Houry, qui a déjà commencé, et avec Olivia Pril, Benjamin, etc., nous rendre compte des travaux du groupe, par exemple, entre 1000, du GTPsy. C'était un groupe qui rassemblait Houry, Tosquelles, Guattari, Chéniaud, enfin tout Jean-Louis Torroubia,
Pankov.
Il y avait beaucoup de gens, des grands psychiatres du XXe siècle qui se réunissaient, et on a les actes de ces GTPsy. On en a déjà deux, quatre qui sont parus. Nul. Et il y en a un qui va paraître la semaine prochaine. Et on a aussi énormément, mais vraiment énormément de chance d'avoir cette maison d'édition. Donc je vous conseille de regarder sur Internet le catalogue et surtout il y a des tout petits bouquins qui sont très vite lus et qui peuvent transformer une existence.
Et donc elle s'appelle les éditions d'une.
Les éditions d'une. D'apostrophe UN.
Donc on peut passer au stand librairie. Moi, je voudrais juste dire un petit mot sur Saint-Alban. Je voudrais dire
vous présidez l'association, c'est
ça. Qu'il y a une association culturelle qui fait beaucoup de choses et qui résiste beaucoup.
Voilà.
Qu'on a assisté effectivement dans les années 2000 à une normalisation forcenée sur le site de Saint-Alban et tous les sites de Lozère. Et que bon, il y a quand même 70 personnes qui adhèrent à l'association culturelle, et donc c'est quand même un petit quelque chose. Et moi, je suis très contente de cette situation, hein, qui est effectivement travaillée à Saint-Alban et qui voit actuellement les jeunes qui effectivement se démènent et dénoncent la situation qui est faite. Il y aura des rencontres en juin, le 14 et 15 juin prochain.
Comme
tous les
ans.
Il y a un petit papier là, voilà. Donc je voudrais quand même.
Il y a quelque chose de vivant.
Voilà. Oui, oui, oui.
Merci Mireille.
Voilà. Merci à tout le monde.
Merci.
Et un tout petit mot de l'éditrice Sophie Legrain.
Oui, bonsoir. Juste pour rebondir sur ce que dit Mireille, je voulais aussi signaler pour les personnes qui cherchent à rencontrer des gens. Qui sont dans ces pratiques-là, qu'il y a une fédération qui s'appelle la Fédération Inter-Association Culturelle, dont fait partie Saint-Alban, et aussi 40 autres ensembles signifiants, on va dire. Voilà.
Eh bien, merci infiniment. Alors maintenant, place à un documentaire autour de François Tosquelles. Merci. Comment ?
Il y a un petit moment de...
Oui, donc merci beaucoup à vous pour ces interventions absolument passionnantes. Merci Eric Favreau. Donc le film qui va être projeté maintenant s'appelle Psychiatrie Saint-Alban, une révolution psychiatrique. Il est de Sonia Cantalapiedra qui est présente ce soir. Et il est édité par Les Films d'un jour. Il date de 2016. Il dure une heure. Donc, il va y avoir 10 minutes de battement pour le changement de plateau, là. Et voilà, on vous retrouve dans 10 minutes pour la projection. Merci beaucoup.